Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous pour développer les derniers points de votre actualité. Deux soldats maliens ont été tués et un blessé dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord du Mali. Le ministère malien des forces armées parlait d'une attaque terroriste. Cette attaque survient après la visite dimanche des ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU du poste de commandement de la force anti-djihadiste du G5 Sahel à Sévaré, ville dans le nord du Mali. Cette force anti-djihadiste conjointe, formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie, doit lancer sa première opération à la fin du mois. La lutte contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a aggravé le niveau de précarité dans l'extrême nord, la région la plus démunie du Cameroun, confrontée désormais au casse-tête de la reconstruction en période de conflit, explique un nouveau rapport du Centre d'analyse International Crisis Group. À défaut d'une étude nationale, le Fonds monétaire international a évalué l'impact budgétaire du conflit, incluant les dépenses de guerre, à environ 1 à 2% du produit intérieur brut en 2015, soit entre 325 et 650 millions de dollars. De son côté, le gouvernement camerounais a estimé à 40 milliards de francs CFA le montant des destructions de biens de maisons, d'écoles, de marchés, de routes et de centres de santé, selon toujours le même rapport. 10 personnes sont mortes dans des affrontements qui ont opposé dans la nuit de lundi à mardi des orpailleurs dans le Tibesti, massif montagneux dans le nord du Tchad. Les affrontements parfois meurtriers sont fréquents entre les habitants du Tibesti et les orpailleurs venus d'autres régions du Tchad ou même d'autres pays comme le Soudan. La découverte des mines d'or dans cette zone a attiré des chercheurs d'or venus des pays voisins. Cette zone désertique et peu peuplée, frontalière de la Libye, du Niger et du Soudan, est également propice à de nombreux trafics illégaux. Le président ivoirien Alassane Ouattara a exhorté l'opposition et la présidence togolaise, engagée dans un bras de fer depuis 2 mois, à ouvrir des négociations en vue de sortir de la grave crise politique qui secoue le pays. Elle a déjà fait au moins 16 morts. Monsieur Ouattara s'est exprimé à marge d'une réunion de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Niamey, au Niger. Suivez.
Nous avons indiqué qu'il était important qu'il y ait un climat de paix au Togo. Nous condamnons la violence, quelle que soit l'origine de la violence. Donc les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous estimons qu'il faut des négociations, car il y a des institutions au Togo et que ces négociations doivent aboutir aux modifications constitutionnelles qui ont été déjà engagées, c'est-à-dire la limitation à 2 mandats et la question d'une élection où la majorité absolue doit être constatée au premier tour, à défaut de quoi il faut un deuxième tour. Et la troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionné. Et la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Alors nous considérons que le Togo doit avoir un climat de paix et nous les encourageons, tous les Togolais, à trouver la meilleure voie nécessaire. Mais les propositions qui sont déjà faites sont des propositions qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo et nous soutenons donc ces initiatives.
Le président ivoirien Alassane Ouattara. Les États-Unis appellent le gouvernement du Togo à respecter le droit de manifester. Washington fait part de son inquiétude face au niveau de violence dans le pays après des semaines de crise. Le département d'État se dit préoccupé par un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité.
VOA Afrique en direct de Washington.
La saga de la présidentielle 2017 au Kenya a fait aujourd'hui un rapide détour par la Cour suprême. C'est celle-là même qui avait pris la décision historique sur le continent d'invalider une élection ni transparente ni vérifiable. Ce scrutin se tiendra bien demain, en moins de 5 minutes. Le président de la plus haute juridiction du pays, David Maraga, adouché les espoirs de ceux qui souhaitaient un report de l'élection afin de laisser le temps à la commission électorale de se réformer et de convaincre le leader de l'opposition, Raila Odinga, de revenir dans le jeu. Monsieur Maraga a expliqué que seuls 2 des 7 juges de la Cour suprême étaient en mesure de siéger. Par conséquent, l'affaire ne pouvait pas être entendue ce matin, a-t-il tranché. Mais ce scrutin boycotté par l'opposition pourrait plonger le pays dans une période de forte instabilité. Tous les regards sont désormais tournés vers Raila Odinga, qui doit donner ses dernières consignes à ses partisans lors d'un rassemblement dans un parc de Nairobi cet après-midi. Mais ce rassemblement est officiellement interdit, les autorités arguant que la campagne présidentielle est terminée depuis lundi soir et qui n'a pas été annoncée dans les formes au gouvernorat de Nairobi. On ignorait à la mi-journée si la police interviendrait ou non pour le disperser. Le secrétaire général de l'ONU au cœur du chaos centrafricain, premier temps fort de sa visite en Centrafrique, Monsieur Antonio Guterres sera à Bangassou, ville sous la coupe des miliciens dans le sud-est du pays, une région où les casquets bleus s'efforcent de prévenir affrontements entre groupes armés et massacres de civils. Arrivé la veille à Bangui pour sa première visite à une mission de paix de l'ONU depuis sa prise de fonction en janvier, M. Guterres a appelé le soir même la communauté internationale à mobiliser davantage de ressources et de capacités pour aider la République centrafricaine. Le retrait du Burundi du traité de Rome et de la Cour pénale internationale décidé l'année dernière par Bujumbura doit entrer en vigueur dans 2 jours. Écoutez ce que en pense le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Bonima.
C'est regrettable parce que la date butoir, c'est le 27 octobre. Nous espérions que la Cour pénale internationale allait ouvrir des enquêtes, mais qu'à cela ne tienne, attendons encore. Il y a quelques 3 jours qui restent. Mais si la Cour pénale internationale ne parvient pas à ouvrir des enquêtes proprement dites, il y a des enquêtes préliminaires. Et je pense que les crimes commis avant le 27 octobre pourront être poursuivis même dans l'avenir.
Pierre Claver Mbonima, de passage ici à la Voix de l'Amérique. Il vient d'être décoré du Civil Courage Prize 2017 à New York. C'était la semaine dernière. Les militants d'opposition arrêtés en marge de la visite de leur chef de file à Lubumbashi dans le sud-est de la RDC ont été libérés aujourd'hui. Le premier procès de l'affaire des biens mal acquis connaît vendredi son épilogue avec le jugement à Paris du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Ce procès s'inscrit bien dans l'affaire des biens mal acquis sur les conditions d'acquisition de riches patrimoines en France par plusieurs dirigeants africains. Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a limogé hier soir le chef d'état-major de l'armée et le patron des services de renseignement après des attaques meurtrières lancées au début du mois par des extrémistes dans le nord du pays.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La résistance pacifique se prépare en Catalogne. Dans des réunions publiques, des ateliers ou sur les réseaux sociaux, les indépendantistes organisent la résistance pacifique à la prise de contrôle de la Catalogne par le gouvernement espagnol qui veut empêcher la sécession. La région est sur le qui-vive si le Sénat approuve vendredi les mesures proposées par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Le gouvernement régional de Carles Puigdemont sera destitué. La police autonome, l'administration et le Parlement régional placés sous la tutelle de Madrid. Une formalité pour celui qui est désormais en piste pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Xi Jinping a obtenu aujourd'hui un nouveau mandat à la tête du Parti communiste chinois, entouré d'une équipe dirigeante sans dauphin présumé pour lui faire de l'ombre. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a présenté une vision audacieuse pour transformer le royaume ultra-conservateur à l'occasion d'une opération de charme devant des investisseurs étrangers, dévoilant les plans d'un méga-projet futuriste sur la mer Rouge. Les unités paramilitaires du Al-Shabi sont devenues un supplétif incontournable pour les forces irakiennes face au groupe État islamique, mais également un allié parfois encombrant. Fin de ce journal. Merci de votre oreille attentive. Le prochain bulletin, c'est dans 50 minutes avec Eric Mandakiza. Tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.